Nous célébrons aujourd'hui le jour de la Pentecôte. Et vous savez, nous allons au-devant d'une époque difficile. Récemment, quelqu'un a publié un article de Forbes qui citait le PDG de J.P. Morgan, Jamie Dimon. L'article mentionnait, au cours d'une conférence d'investisseurs, c'était mercredi de la semaine dernière, M. Dimon a déclaré, je cite, « Un ouragan est sur le point de s'abattre sur nous. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un ouragan mineur ou d'un monstre du genre de Sandy, mais vous feriez mieux de vous préparer. » Il voulait ici parler d'un ouragan économique. Et l'article d'ajouter « Ce n'est pas ce que vous voulez entendre de la part d'un cadre expérimenté, sobre et sérieux, qui a connu sa part de boom et de récession au cours de nombreuses décennies passées à travailler dans la banque et la finance. Pour nous, le message est clair. Réduisez vos dépenses et attachez vos ceintures, car nous, les Américains, allons au-devant d'une période difficile qui annonce la fin d'un boom. Entre nous, je ne savais pas que nous étions dans une période de prospérité. Et vous? Mais une chose est sûre, quelle qu'ait été la situation ces derniers temps, elle va empirer. C'est ce à quoi les experts s'attendent. Nous voyons la prophétie se dérouler sous nos yeux. Nous assistons à ce que nous avons appris et entendu depuis des décennies. En effet, ceux qui sont dans l'Église de Dieu depuis un certain temps savent que notre monde occidental court à la catastrophe. Et pourtant, il nous faut bien l'accepter. Nous vivons dans ce monde et ces choses nous affectent personnellement, en particulier dans notre porte-monnaie. Nous voyons les prix augmenter. Nos budgets se resserrent. Nous assistons même à des pénuries alimentaires. Cela peut être décourageant et démoralisant, surtout si nous sommes déjà assaillis par d'autres épreuves. C'est que, comme nous l'avons entendu, certains parmi nous passent présentement par diverses épreuves, des problèmes de santé ou d'autres épreuves personnelles parfois très graves. Et il est certain qu'au fur et à mesure que les malédictions qui déferlent sur notre société se multiplieront, nous allons aussi finir par être affectés par certaines d'entre elles. J'aimerais maintenant aborder un sujet auquel nous sommes tous confrontés de temps à autre. Ainsi, nous avons parfois l'impression que nous pédalons au mieux de nos capacités, mais sans pour autant atteindre notre objectif. Parfois, il nous semble même que nous sommes en perte de vitesse. Eh oui, vous faites tout ce que vous pensez devoir faire, mais vous avez l'impression de faire du surplace ou de déraper. Alors que nous parlons du jour de la Pentecôte, j'aimerais vous poser une question. Lorsque vous vous sentez débordé, lorsque vous avez l'impression de ne pas progresser, en particulier lorsque le stress, les épreuves et les pressions de notre monde nous assaillent, laissez-moi vous suggérer une chose fort simple, à savoir de déplacer votre point d'appui. Oui, déplacer votre point d'appui. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, parlons un peu de science. Revenons à cette époque où nous étions en cinquième année, quand on nous enseignait certaines notions ayant trait à des machines simples, comme le principe des leviers par exemple. Vous avez sûrement déjà fait une telle expérience dans la cour de récréation, lorsque vous avez fait usage d'une balançoire à bascule. On parle ici d'une planche qui repose sur un pivot, un point d'appui, lequel est normalement placé à mi-chemin des extrémités. Un enfant va s'asseoir à une des extrémités et un autre à l'autre extrémité. Idéalement, les deux enfants auront un poids similaire, sinon ce ne sera pas très amusant. Cependant, si vous déplaciez votre pivot, votre point d'appui, du milieu de la planche vers l'une des extrémités, par exemple vers l'extrémité gauche, si l'enfant à droite est toujours le même, l'enfant placé à gauche devra être plus lourd pour équilibrer la planche. Ainsi, appelons D la distance entre le pivot et chacun des enfants dans la première configuration. Supposons maintenant que vous fassiez glisser le pivot de D sur 2 vers la gauche, de telle sorte que l'enfant de droite sera à une distance de 3D sur 2 du pivot et l'autre à D sur 2. Il faudrait alors que l'enfant placé à gauche soit 3 fois plus lourd pour équilibrer la planche. On pourrait continuer et dire que si vous placiez le pivot à D sur 4 de l'extrémité gauche, auquel cas l'autre extrémité sera 7D sur 4 du pivot, il faudrait 7 fois que l'enfant placé à gauche soit 7 fois plus lourd pour équilibrer la planche. Du moins si l'enfant placé à droite est toujours le même. C'est sur ce principe qu'est basée la pince Monseigneur. Elle amplifie notre force. Frères et sœurs, il existe une analogie spirituelle qui peut s'appliquer à notre vie. Oui, il y a un moyen de faire fructifier nos efforts en déplaçant le point d'appui dans notre vie. Je pense que vous devinez où je veux en venir, et cela a rapport avec le jour de la Pentecôte. Quel est le secret pour déplacer notre point d'appui? Il réside dans le Saint-Esprit dans nos vies. En ce jour de l'an 31 de notre ère, lorsque le Saint-Esprit a été répandu, l'Église a soudain bénéficié d'une puissance qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Nous en reparlerons dans un instant. Ne serait-il pas agréable d'avoir dans nos vies la capacité de multiplier nos efforts, surtout à une époque comme celle à laquelle nous sommes confrontés, une époque où les ressources se raréfient de plus en plus. Heureusement que pour nous s'offre la possibilité de multiplier nos efforts, car nous avons accès au Saint-Esprit, cette force puissante et dynamique qui peut nous aider à multiplier nos efforts, alors que nos vies doivent traverser une époque de plus en plus difficile. Mais encore nous faudra-t-il pour cela déplacer notre point d'appui. Si vous recherchez un titre pour ce sermon, c'est tout simplement « Déplacer le point d'appui ». Oui, déplacer le point d'appui. Laissez-moi vous donner un exemple concret pour que vous sachiez exactement de quoi je veux parler. Supposez que vous ayez à retirer un gros rocher qui est enfoui très profondément dans le sol. Qu'allez-vous faire? De toute évidence, vous ne pourrez pas vous contenter d'accomplir la tâche avec une cuillère ou quelque chose de ce genre. Non, vous ferez alors usage d'une barre ou d'un levier de quelque sorte, n'est-ce pas? Vous devrez vous procurer un tel objet dans un magasin approprié, puis, muni d'un tel outil, vous allez l'enfoncer dans le sol à proximité du rocher tout en vous donnant un point d'appui pour avoir un bras de levier adéquat. Si cela ne suffit toujours pas pour dégager le rocher, qu'allez-vous faire ensuite? Vous vous mettrez alors en quête d'une brique que vous placerez sur le sol près du gros rocher. Puis, après avoir fait glisser la barre sur votre appui, de telle sorte que son extrémité soit positionnée sous le rocher, la même force que vous appliquiez tantôt à l'autre extrémité suffira probablement cette fois à dégager le rocher. Nous faisons ici appel à un principe physique simple, celui d'un bras de levier. Eh bien, il en existe une analogie frappante dans le domaine spirituel. La question est de savoir si nous allons nous en prévaloir, si nous allons apprendre à faire bon usage de ce point d'appui, à le déplacer au besoin pour arriver à nos fins. Voyons Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Jean chapitre 14, versets 15 à 18. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Nous n'insisterons pas aujourd'hui sur le fait que le Saint-Esprit n'est évidemment pas une personne. Effectivement, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est la puissance de Dieu. D'accord, dans certains cas, selon la langue en usage, on pourrait être amené à croire que lorsque la Bible parle du Saint-Esprit, elle parle d'une personne, et cela à cause de l'article employé en conjonction avec le nom. Mais ce n'est pas le cas. De toute façon, ailleurs, lorsque la Bible parle du Saint-Esprit, elle dira qu'il est répandu, à moins qu'elle ne le compare à du feu, de l'eau ou de l'huile. Donc, retenez que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, et Christ a promis qu'il nous enverrait cette puissance. Allons maintenant à Actes chapitre 2, où nous voyons une description de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, après la mort de Christ et sa résurrection. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous voyons ici une description de ce que les disciples faisaient et de ce que les apôtres faisaient après que l'Esprit ait été répandu sur eux. Il y a en particulier question de l'apôtre Pierre. Comment, quelques semaines seulement après avoir renié le Christ, il était devenu une toute autre personne. On le voit ici qui défie ceux qui étaient responsables de la mort du Christ. Ne leur dit-il pas en effet « C'est vous qui avez tué le Messie ». Frères et sœurs, nous ne pouvons nier que le Saint-Esprit a permis au point d'appui de se déplacer dans la vie de Pierre, au point de faire de lui une personne très différente, et cela juste en quelques semaines. Cela pourrait-il aussi nous arriver? Dans 2 Timothée chapitre 1, au verset 6, Paul écrit, 2 Timothée chapitre 1, verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ainsi, le Saint-Esprit nous donne la puissance, l'amour et l'intelligence que nous n'aurions pas autrement. » Il déplace le point d'appui dans notre vie. Il nous change, mais nous devons le stimuler. Il nous faudra faire quelque chose. Récemment, M. John Meakin a écrit un article sur ce thème. Il écrivait ceci dans notre Living Church News. Oui, la signification de « ranimer » est quelque peu surprenante. Par exemple, l'Amplified Bible Classic Edition traduit à juste titre 2 Timothée 1:6 de la façon suivante. C'est pourquoi je voudrais vous rappeler d'attiser ou de ranimer les braises ou d'attiser la flamme et d'entretenir le don gracieux de Dieu, le feu intérieur qui est en vous par l'imposition de mes mains. Le mot ranimer que Paul utilise ici métaphoriquement vient du mot grec anasopyreo et signifie rallumer ou maintenir en pleine flamme. Dans le Complete Expository Dictionary, of Old and New Testament Words Divine, nous lisons « Le don de Dieu est considéré comme un feu capable de s'éteindre par négligence. » Paul compare le don du Saint-Esprit à un feu intérieur qui devrait brûler fortement et puissamment en chacun de nous. Ce faisant, il produira le fruit de l'Esprit et les bonnes œuvres que Dieu attend de nous. La question qui se pose pour chacun de nous aujourd'hui est donc la suivante. Déplaçons-nous le point d'appui dans notre vie? Si ce n'est pas le cas, comment pouvons-nous le faire? Nous avons à notre disposition les moyens de le faire. Mais est-ce que nous déplaçons ce point d'appui? Est-ce que nous attisons le feu? Vous savez, nous tombons parfois dans des routines ou des habitudes qui font que non seulement nous ne déplaçons pas le point d'appui de manière positive, mais nous le faisons en fait glisser dans l'autre sens, au point de perdre de la puissance. Laissez-moi ici vous donner un exemple. Je me souviens qu'à un moment donné de ma vie, j'avais adopté une mauvaise routine. N'est-il pas drôle de constater que toutes les mauvaises habitudes que nous les avons adoptées inconsciemment. Ainsi, nous ne déciderons pas un beau jour de prendre telle ou telle mauvaise habitude. Non, cela se fera par hasard. Ainsi, je me souviens de cette habitude que j'avais prise de regarder une certaine émission de télévision entre 22 et 23 heures. Il s'agissait d'une série policière entremêlée de débats judiciaires et d'affaires criminelles, ce genre de choses. En faisant ce choix, mon intention était de me détendre et de me reposer les méninges en fin de journée, et c'est ainsi que je me suis laissé prendre au piège. Au départ, cela avait toute l'apparence d'une série très intéressante et passionnante, des intrigues bien menées. L'ennui, c'est qu'après avoir fini de visionner une telle émission, lorsque venait le moment de faire ma prière, avant de me coucher, je me heurtais à un problème de concentration. Oui, je constatais alors que mon esprit était envahi de ces scènes que je venais de voir. Vous savez, des gens qui se tirent dessus, des poursuites en voiture, des débats houleux devant un tribunal, ou des actes criminels à vous donner le haut-le-cœur. Tout cela ressurgissait dans mon esprit pendant que j'essayais de prier. Je devais donc redoubler d'efforts pour chasser ces choses de mon esprit afin de pouvoir prier. Ajoutons à cela que je n'étais pas vraiment détendu au moment d'aller me coucher, vu que toutes ces choses m'avaient évidemment quelque peu excité et fait monter mon taux d'adrénaline. Et c'est pourquoi il m'a fallu en fin de compte beaucoup plus de temps pour m'endormir. Par ailleurs, lorsqu'on reste debout tard pour regarder la télévision, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on a faim. Et, en général, on n'a pas alors envie de manger du brocoli ou des carottes, pas vrai? Non, bien sûr. On va alors se tourner vers ces aliments gras, néfastes pour la santé. Pas seulement ça. Quand on se couche tard, le lendemain, on n'est pas en forme. On se sent fatigué. Et voilà qu'on se rend compte que la prière du lendemain s'en trouve affectée elle aussi, et on se sentira coupable. Et puis, dans l'éventualité où on se serait endormi la veille sans avoir prié, tout simplement parce qu'on était trop fatigué, si on essayait alors de se racheter en priant dès le réveil, il y a fort à parier que l'on serait à nouveau assailli par ces scènes de la veille qui reviendraient hanter notre esprit. Pas facile de repousser tout cela. Comble de malheur, si vous vous êtes laissé piéger par cette mauvaise habitude plusieurs fois de suite, vous constatez à présent que vous êtes devenu accro, vous y avez pris goût, et voilà que vous anticipez le plaisir d'une nouvelle expérience, et vous vous laissez prendre au piège à nouveau. D'autant plus que les promoteurs de ces émissions s'efforceront de leur mieux pour vous garder. Pour ma part, heureusement qu'à un moment donné, je me suis ressaisi et ai dit « Mais qu'est-ce que je fais là? N'avais-je pas décidé de regarder cette émission pour me détendre? Or, voilà 4 ou 5 effets négatifs qui en découlent. Il me semble que je perds du pouvoir ici, que je déplace le point d'appui dans la mauvaise direction. » Je crois qu'à la même époque où je vivais cette expérience, un pasteur avait justement donné un sermon où il disait « Il y a parfois des moments où il faut couper le cordon, éteindre la télé ou carrément s'en débarrasser. » Et j'ai alors pensé « vous savez, je suis peut-être parfois là à comprendre certaines choses, mais ça je le comprends. Et quel changement spectaculaire cela n'a-t-il pas produit dans ma vie lorsque j'ai cessé de regarder ce type d'émission 4 ou 5 fois de suite. Une émission qui devait, selon moi, m'aider à me détendre. Peut-être que cela ne s'applique pas à vous, frères et sœurs. Peut-être que vous n'avez jamais fait cette expérience. Cependant, je pense que, de temps en temps, d'une manière ou d'une autre, nous allons nous retrouver à faire des choses qui nous semblent alléchantes au premier abord, mais qui s'avéreront finalement aller à l'encontre de nos objectifs, de ce que nous avons commencé à croire et avions promis à Dieu de faire. Hélas, oui, certaines choses que nous ferons, certaines habitudes que nous prendrons, nous feront faire marche arrière et déplacer notre point d'appui dans la mauvaise direction. Je pense que cela fait partie de notre croissance, de notre maturation et de notre efficacité en tant que chrétien, de devenir sensible aux choses qui nous font régresser et multiplier les effets négatifs qui affecteront notre vie. Efforçons-nous de les éliminer, d'être sensibles à elles. Posons-nous la question, si je fais telle ou telle chose, cela va-t-il multiplier les effets positifs dans ma vie? Et si oui, ne tardons pas à les mettre en œuvre. Proverbe chapitre 13, verset 15 dit « Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. » Vous savez, souvent, au début, la voie du péché, la voie de ce monde, la voie de la nature charnelle qui est encore en nous, semble bonne, elle semble douce, elle semble positive, elle semble agréable. Mais combien de fois cela s'avère-t-il être trompeur? Verset 16 « Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. » Il est un fait que nous pouvons parfois nous rendre la vie plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Alors, Comment pouvons-nous accroître notre efficacité? Comment pouvons-nous positionner notre point d'appui pour avoir une vie meilleure grâce au Saint-Esprit? Parlons à présent de quelques stratégies. Stratégie numéro 1. Être enseignable. Oui, être réceptif aux enseignements de Dieu. S'il y a des domaines dans notre vie où nous ne semblons pas progresser, posons-nous la question suivante. Dans quelle mesure demandons-nous de l'aide à Dieu? Dans quelle mesure voulons-nous vraiment que Dieu nous enseigne comment mieux naviguer dans notre vie? Voyons Jean chapitre 14 au verset 25. Là encore, cela fait partie de ces choses que Jésus disait à ses disciples juste avant de mourir. Ceci est très utile pour nous et très significatif. Alors que nous parlons en ce jour de la Pentecôte du Saint-Esprit, ainsi que de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Voyons donc Jean chapitre 14, versets 25 et 26. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je crois que M. Ames a lui aussi parlé de certaines de ces choses hier, de choses à propos du Saint-Esprit. Mais je voudrais pour ma part aborder certains autres aspects des différentes façons dont le Saint-Esprit peut nous aider. Par exemple, le Saint-Esprit est spécifiquement cité comme un véhicule par lequel Dieu nous enseigne. Et n'est-il pas vrai que pour nous, l'une des choses les plus difficiles à admettre, c'est qu'il ne nous est pas possible de faire quelque chose? Je pense que nous nous souvenons tous de situations que nous avons vécues étant enfants, ou que nous avons noté en observant de jeunes enfants. Ils vont parfois insister pour faire quelque chose, et le faire tout seul. Par exemple, mettre les chaussures. « Je peux le faire tout seul », vont-ils alors dire, et cela même s'ils n'ont pas encore vraiment appris à le faire. Si vous cherchez alors à leur montrer comment faire, ils vont souvent insister et dire « Non, non, je peux le faire moi-même », lorsqu'ils se rendront compte que ça n'est pas aussi simple qu'ils croyaient. Les voilà frustrés, irrités et agacés, et il leur faudra un certain temps pour finalement se résoudre à demander l'aide de papa ou de maman. N'est-ce pas ainsi que nous nous comportons aussi, parfois, nous, les adultes? Et vous savez, cela constitue un énorme obstacle au déplacement de notre point d'appui. Oui, le fait d'accepter de se faire enseigner est un excellent moyen de déplacer notre point d'appui dans la bonne direction. Le Saint-Esprit est appelé le Consolateur, ou l'Assistant, comme on lit dans la King James. Oui, l'Assistant. N'est-ce pas intéressant? Quelque chose que Dieu met à notre disposition pour nous aider dans notre vie spirituelle. Cela vient de Dieu. C'est une puissance qu'il met à notre disposition, car il veut nous aider. Mais combien souvent faisons-nous appel à son aide? Vous allez peut-être vous demander pourquoi il est si important de passer du temps avec Dieu dans la prière et l'étude de sa parole. Eh bien, parce que c'est ainsi que Dieu nous enseigne. C'est ainsi qu'il nous parle de nos problèmes, de nos défis, de nos besoins, de ce dont nous avons besoin, de la manière dont nous pouvons faire face aux luttes et aux défis de notre vie. Mais si nous négligeons de lire la Bible et si nous ne prenons pas le temps de prier, nous allons rater notre chance d'être enseignés. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous savez fort bien vous-même à combien de distractions ce monde moderne nous soumet, et combien de pertes de temps, combien de sources de distractions y a-t-il dans nos vies de nos jours. Il ne s'agit pas seulement de la télévision, comme il y a une vingtaine d'années. À présent, il y a les téléphones intelligents, l'Internet, toutes des choses qui sont disponibles 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Peu importe où vous êtes. Suis-je en train de dire que ces appareils sont diaboliques? Non, mais ces gadgets peuvent nous empêcher de prendre le temps de prier et d'étudier régulièrement, matin et soir. Et si c'est le cas, alors c'est un problème, et il nous faudra apprendre à nous contrôler. Vous savez, il ne suffit pas de dire à Dieu « Je veux être enseigné par toi ». Si nous faisons le choix de laisser une distraction nous empêcher d'ouvrir notre Bible et de passer du temps avec Dieu, nous montrons à Dieu que nous ne tenons pas vraiment à être enseignés par lui. Comment alors déplacer notre point d'appui pour prouver à Dieu que nous tenons à ce qu'il nous enseigne. C'est très simple. Il suffit chaque jour de l'écouter et de lui parler par le biais de la prière et de l'étude de sa parole. Allons à Luc chapitre 12 au verset 11. Il est intéressant de voir comment le Christ a dit à ses disciples qu'il allait leur rappeler certaines choses ou que le Saint-Esprit leur rappellerait certaines choses. J'ai bien dit « rappellerait », ce qui sous-entend que ces choses avaient été étudiées auparavant. Il nous faut donc faire entrer ces choses dans notre cerveau. Le Saint-Esprit ne le fera pas à notre place et à notre insu. Oh, il va nous aider à nous en souvenir, si nous l'introduisons dans notre cerveau en premier lieu. Voyez par exemple Luc chapitre 12, versets 11 et 12. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Soyez assurés que, si un jour, vous vous trouvez dans une situation difficile, le Saint-Esprit vous assistera. Il se pourrait, par exemple, que vous soyez amené, en tant que jeune, à comparaître devant un comité de sélection, ou que vous ayez à expliquer à un professeur pourquoi vous devez vous absenter pour pouvoir observer certains jours saints. Ou encore, il se pourrait qu'en qualité d'employé, vous ayez à demander à votre patron qu'il vous accorde telle ou telle faveur. Quand on est jeune, on s'inquiète parfois de savoir ce que l'on va dire quand on sera mis sur la sellette au sujet de nos croyances. Eh bien, vous n'avez pas à vous inquiéter, parce que si vous lisez votre Bible, si vous priez Dieu régulièrement, vous recevrez de l'aide pour dire ce qu'il faut au moment crucial. Le fait est que si nous sommes prêts à être enseignés, Christ nous prendra en charge, et il le fera par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui déplacera notre point d'appui, ce qui fera toute une différence dans notre vie. Comment pouvons-nous encore déplacer notre point d'appui? Stratégie numéro 2. Apprenons à connaître le vrai Christ. Apprenons à connaître le vrai Christ. Allons à Jean chapitre 15, verset 26, où il est dit, Jean chapitre 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi est-il si important que le Saint-Esprit témoigne à propos de Christ? Eh bien, nous avons besoin d'une véritable compréhension à propos de qui le Christ est réellement, compréhension qui échappe totalement à ce monde, lequel le dépeint comme un faible, une mauviette aux cheveux longs, qui serait venu pour abolir la loi de son Père. Or, rien n'est plus faux. Il est intéressant de noter ce que Jean chapitre 1 verset 1 dit à propos du véritable Christ. Voyons-le. Jean chapitre 1 verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous voyons donc que la parole était présente dès le commencement. La parole était un être divin. Elle était avec le Père. C'est elle, la parole, qui a créé tout ce que nous voyons. Pour être encore plus clair, lisons aussi les versets 10 à 12. Jean 1, versets 10 à 12. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui était le Christ? C'est celui qui nous a créés. C'est celui qui a créé l'humanité, qui a façonné et modelé le premier être humain. Il a créé Ève à partir de la côte d'Adam. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Combien important est-ce de comprendre qui est vraiment le Christ? qui est vraiment notre Seigneur et notre Maître? Et puis, est-ce important de savoir que notre Sauveur est aussi notre Créateur? Parfois nos jeunes se demandent, y a-t-il vraiment un Dieu? Il s'agit là de questions fondamentales qu'ils se posent, et qu'ils font bien de se poser. Le problème est de savoir où ils trouveront les réponses. Ils ne les trouveront pas dans le monde. Ils ne les trouveront ni auprès des sceptiques, ni auprès des moqueurs. Si vous êtes jeune et vous trouvez dans une telle situation, demandez-vous, s'il n'y a pas de Dieu, comment suis-je arrivé ici? S'il n'y a pas de Dieu, comment les premiers êtres humains sont-ils arrivés ici? S'il n'y a pas de Dieu, comment l'univers lui-même est-il apparu? Oh, les évolutionnistes ont toutes sortes d'arguments, mais ils n'abordent jamais le thème des origines, parce qu'ils savent fort bien qu'ils n'ont pas de réponse. La meilleure explication qu'ils puissent trouver, et un éminent évolutionniste en a parlé il y a quelques années, c'est que ce seraient des extraterrestres qui auraient ensemencé la planète. Vraiment? Est-ce là la meilleure explication scientifique que l'on puisse trouver? Écoutez, jeunes gens, lorsque vous débattez de telles questions, l'essentiel est de garder Dieu dans le décor. Ne vous éloignez pas de la source. Ne vous laissez pas guider par les sceptiques et les moqueurs. N'oubliez pas que ce ne sont là que des personnes avec leurs opinions personnelles, et que leurs opinions ne diffèrent guère de celles du monde en général. Ils n'en savent pas vraiment plus que vous. C'est à Dieu qu'il faut vous adresser pour obtenir les vraies réponses. Demandez-lui de vous les montrer, de vous enseigner, et n'oubliez pas que Dieu ne veut pas seulement que vous compreniez qu'il existe, il veut aussi que vous sachiez qu'il vous aime et qu'il se soucie de vous. La théorie de l'évolution n'aborde pas ces sujets. Son approche de la vie, de son origine et de son but est très froide, très dure. Dieu, au contraire, nous permet de comprendre pourquoi nous sommes ici. De plus, une fois que nous comprenons qui est le Christ, nous commençons à comprendre, par l'entremise de son Saint-Esprit, qu'il est prêt à vivre en nous, qu'il est prêt à faire le plus gros du travail pour nous. Oui, il est prêt à déplacer ce fameux point d'appui. Si, comme il a été mentionné dans la sermonnette de l'offrande, il a créé les étoiles, le soleil, la lune et les planètes, ne pensez-vous pas qu'il sait a fortiori comment déplacer un obstacle? Autrement dit, s'il vit en nous, ne pensez-vous pas qu'il peut nous donner les moyens d'accomplir les choses difficiles que la vie nous réserve? Voyons Galates, chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. On devrait dire du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Encore une fois, frères et sœurs, combien d'entre nous se débattent inutilement avec des fardeaux difficiles à porter? Nous nous débattons peut-être avec des sentiments de culpabilité, avec des épreuves, des difficultés ou des conflits interpersonnels. Peut-être que nous savons qui est le Christ, peut-être même que nous lui avons consacré notre vie et que nous marchons avec lui. Mais oublions-nous parfois qu'il vit en nous? Alors, s'il vit en nous, il travaillera en nous et nous aidera à traverser les obstacles que nous rencontrerons. Et nous les surmonterons par sa puissance, sa foi et sa force. C'est cela l'effet de levier, quand Dieu lui-même est en nous et accomplit le travail. Stratégie numéro 3. Nous impliquer dans l'œuvre que Dieu accomplit par l'intermédiaire de son Esprit. Je répète, nous impliquer dans l'œuvre que Dieu accomplit par l'intermédiaire de son Esprit. Dans Jean, chapitre 16, au verset 6, on lit Jean, chapitre 16, versets 6 et 7. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Versets 8 à 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Qu'est-ce que cela signifie? Arrêtons-nous un instant pour y réfléchir. Il parlait de l'envoi du Saint-Esprit et du fait que le Saint-Esprit convaincrait le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Comment cela s'effectuera-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? À n'importe quel moment de l'histoire, pendant des siècles et des millénaires, chaque fois qu'une société humaine se dirigeait vers un désastre, Dieu lui a toujours envoyé quelqu'un pour l'avertir du danger qui la guettait. Dieu a toujours envoyé un messager sous la forme d'un humain. Il a toujours utilisé ses serviteurs pour avertir les gens de ce qui allait arriver. Pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui? Quel est le mécanisme que Dieu utilise pour convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement? Dieu commence par expliquer ce qu'est le péché. Combien de personnes aujourd'hui n'ont aucune idée de ce qu'est le péché? Et la raison en est que le monde n'a plus la moindre connaissance de la Bible. De même, combien de personnes aujourd'hui ont connaissance de ce qu'est la justice? Oh, certes, ils ont leur propre concept de justice. Ils ont développé leur propre vérité sur ce point. Mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils auraient grandement besoin d'être enseignés. Quelqu'un doit le leur dire. Et puis, combien de personnes comprennent aujourd'hui pourquoi un jugement à venir se profile à l'horizon? Là encore, il faut le leur dire. Et, frères et sœurs, nous sommes ceux qui doivent leur transmettre ce message. Et c'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit que nous devons le faire. C'est lui qui nous donne la force d'accomplir ce travail. Revenons à présent à la métaphore d'un levier pour déplacer un rocher encastré dans le sol. Nous avons parlé de l'avantage de rapprocher le point d'appui du rocher afin que nos vies fonctionnent mieux, que nous soyons capables de mieux gérer et naviguer dans nos vies. Mais, quand nous y pensons, essayons d'acquérir une perspective plus large. Je me souviens de cette époque, il y a longtemps, quand l'Église traversait une période d'apostasie, une époque très décourageante pour moi. J'étais alors un jeune adulte qui se demandait quelle direction prendre. Allais-je continuer à suivre la vérité de la Bible ou allais-je poursuivre des voies différentes? Je me souviens d'être alors tombé sur un vieil enregistrement de M. Herb Armstrong, intitulé « Pourquoi la raison d'être des prémices ?» Il y expliquait pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour notre propre salut. Ce n'est pas seulement pour que nous puissions développer le caractère divin. Ce n'est pas seulement pour que nous puissions mieux naviguer dans notre vie. C'est parce que nous sommes appelés à accomplir une œuvre. Oui, nous sommes appelés pour une mission. Nous sommes appelés à prêcher l'Évangile au monde en ces temps de la fin. Cela m'a ouvert les yeux, changé ma vie et permis de naviguer à travers le fouillis d'une période très sombre où régnait la confusion. Cela a certainement aidé à déplacer le point d'appui pour moi. Cela dit, pensez-y, nous parlons de ce rocher encastré dans le sol. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient que le travail de l'Église devrait consister à rassembler toutes les Églises de Dieu, mais ce n'est pas de cette œuvre que parlent les Écritures. C'est que ce n'est pas là le travail accompli par le Saint-Esprit, à savoir de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice ou le jugement. Si nous agissions comme eux, cela équivaudra à dire « Mon Dieu, ce n'est pas ce rocher-là que je veux ôter du sol. Je veux plutôt en arracher un autre. Je n'aime pas le travail que tu fais, le travail dans lequel tu es impliqué. Je persiste à croire que le travail devrait être ici, ou à la rigueur là. Non, décidément, je veux faire quelque chose d'autre. Dieu va-t-il apprécier une telle attitude? Une attitude qui consisterait à refuser de suivre les recommandations du Saint-Esprit? Non, le travail de l'Église n'est pas de rassembler les divers groupes qui veulent aujourd'hui se faire passer pour l'Église de Dieu. Ceci représente particulièrement un défi pour nos jeunes, car c'est là un argument très séduisant qui pourrait nous faire trébucher si nous n'y prenons pas garde, si nous ne gardons pas le nez dans la Bible, et si nous ne prêtons pas attention à ce que fait Dieu, à ce que fait son Saint-Esprit. En effet, les divers groupes qui se donnent le nom d'Église de Dieu ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Ils n'ont pas la même perspective, ne croient pas aux mêmes doctrines ou n'ont pas les mêmes pratiques. En un mot, il nous faut nous impliquer dans ce que Dieu accomplit. Tournons-nous maintenant vers Actes chapitre 1, où l'on nous mentionne quelque chose d'intéressant, à savoir pourquoi le Saint-Esprit allait être répandu sur les apôtres et les disciples, car cela n'avait pas encore eu lieu. Actes chapitre 1, versets 4 à 7. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ainsi, les disciples ont reçu une puissance, celle du Saint-Esprit, et on peut se demander pourquoi ils l'ont reçue. Ce n'est pas seulement pour leur croissance et leur bénéfice personnel, même si cela est inclus. C'est avant tout pour qu'ils puissent répandre l'Évangile dans le monde. Oui, frères et sœurs, pourquoi avons-nous reçu ce pouvoir? Réponse, pour participer à l'œuvre de Dieu. Tantôt nous lirons Jean chapitre 4, verset 31. Mais avant cela, rendons-nous à Lévitique chapitre 23, au verset 15, où il est question d'une ordonnance concernant le jour de la Pentecôte, ou fête des prémices, comme on l'appelait à l'époque de l'Ancien Testament. Lévitique 23, versets 15 à 17. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Aujourd'hui, nous n'offrons plus ces sacrifices. Nous n'apportons pas des offrandes de grains. Mais il est ici question de prémices. C'est la fête des prémices. Il est question de l'Église. Il s'agit de ceux qui sont appelés aujourd'hui. Verset 21. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Bon, tel qu'annoncé précédemment, passons maintenant à Jean chapitre 4, où nous trouvons Jésus qui parle à cette Samaritaine, tandis que les disciples étaient allés chercher du pain en ville. À leur retour, voyez ce que firent les disciples. Jean 4, versets 31 à 33. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Après tout, C'était eux qui avaient été chargés d'acheter de la nourriture. Les voilà donc confus. Poursuivons versets 34 et 35. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Et non, c'est bizarre, car il semble qu'il restait encore des mois jusqu'à la moisson à ce moment-là. Il existe cependant une autre explication. Selon certains commentateurs, alors qu'il se préparait pour servir un repas, voilà qu'il voit arriver toute une foule en provenance de la ville de Samarie. Ces gens avaient été intrigués par la rumeur répandue par cette femme qui leur annonçait la présence du Messie. Voilà pourquoi ils venaient le voir en grand nombre. Et c'est peut-être cela qui a fait dire à Jésus, « Regardez, les champs sont blancs pour la moisson. » En d'autres termes, il y a là des gens que nous devons servir. Jésus ne voulait donc pas dire qu'il ne mangerait plus jamais. Bien sûr qu'il a mangé pendant le reste de sa vie physique. Mais, à ce moment-là, il tenait à enseigner à ses disciples une leçon précieuse, à savoir que la nourriture la plus importante est d'accomplir l'œuvre de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, nous vivons à une époque d'incertitude, une époque inquiétante où l'inflation est galopante et où les étagères se vident, une situation à laquelle nous n'étions pas habitués jadis dans notre pays. Justement, hier, je lisais un article qui rapportait que les agriculteurs s'attendent à présent à ce que les prix vont probablement doubler d'ici à l'automne 2023, lorsque leurs produits arriveront sur les étagères. C'est logique, parce que leurs dépenses augmentent elles aussi. La situation va donc s'aggraver, ce qui va être pénible pour plusieurs. Cela dit, nous qui lisons la Bible, nous sommes bien sûr conscients du fait qu'à un moment donné, Jésus a nourri 5 000 personnes, et cela avec seulement quelques pains. Il peut, donc, assurer notre subsistance. Nous devons cependant être économes. Nous devons être prudents. Nous devons cultiver notre nourriture si nous le pouvons. Nous devons apprendre à nous serrer la ceinture. Peut-être que nous devrions aussi prier davantage avant d'aller faire notre épicerie. Peut-être que nous devrions demander à Dieu de guider nos achats, car nous vivons à une époque de forte inflation. Peut-être que nous devrions aussi être plus attentifs à la provenance de notre nourriture. Cela dit, Dieu peut-il fournir une table dans le désert? Certes, et c'est ce que nous lisons dans Psaume chapitre 78, verset 19. Soyons donc conscients de qui il est et d'où nous vient notre nourriture. Pour nous, frères et sœurs, nous faisons de notre mieux pour participer à l'œuvre de Dieu, même si nos efforts sont infimes, comparés à ce que Dieu accomplit. Cela me rappelle l'époque où nos enfants étaient petits et que nous travaillions dans le jardin. Il nous est arrivé parfois de devoir faire appel à un levier pour extraire une pierre de la cour. À d'autres moments, nous avons eu à utiliser une pelle pour creuser et déplacer de la terre. Lorsqu'ils nous voyaient à l'œuvre, nos enfants voulaient souvent se rendre utiles. « Papa, je peux t'aider avec la pelle ?»« Bien sûr. » Ils s'accrochaient alors à la pelle pendant que nous nous efforcions de déplacer la terre. C'est difficile de travailler de manière efficace dans de pareilles conditions. Mais, que voulez-vous ? Ils veulent t'aider et on ne voudra pas les contrarier. C'est vous qui devez faire tout le travail. Mais ils sont heureux parce que vous leur permettez de s'impliquer. Nous pouvons parfois avoir l'impression qu'il en va de même pour le travail que nous accomplissons pour l'œuvre de Dieu. Nous nous efforçons de faire de notre mieux, mais, en définitive, c'est Dieu qui fait le gros du travail. Oui, il veut que nous gardions les mains sur la pelle ou sur le levier, mais, finalement, c'est lui qui fait le gros du travail. Allons maintenant à Matthieu chapitre 11, au verset 28. Encore une fois, nous devons faire notre part dans l'œuvre de Dieu. Nous devons nous impliquer, parce que Christ nous le demande, et c'est bon pour nous. Si nous ne le faisons pas, Dieu se trouvera quelqu'un d'autre. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Si je comprends bien, la métaphore ici est celle d'un double joug d'animaux, utilisé pour labourer et cultiver le sol. Nous sommes sous un joug et le Christ est sous l'autre. Posons-nous alors la question. Qui tire ici? C'est le Christ, n'est-ce pas? Nous n'avons qu'à suivre. Oui, nous devons mettre notre épaule sous le joug, mais c'est lui qui tire en réalité. N'est-ce pas ce que nous lisons ici? Ainsi, nous faisons partie d'une grande œuvre. En fait, de la plus grande œuvre sur terre à l'heure actuelle. Et je n'exagère pas. Quelle que soit la part qui nous est réservée dans cette œuvre, cela nous donne une énorme motivation et contribue à déplacer le point d'appui dans notre vie. Vous avez probablement un emploi en ce moment. Oh, ce n'est peut-être pas un emploi de rêve, mais, vous savez, grâce à cet emploi, vous êtes en mesure de contribuer à l'œuvre de Dieu en ces temps de la fin. Une œuvre qui a pour mission de préparer le monde pour le retour du Christ. Vous bénéficiez là d'une opportunité fantastique. Peut-être que vous travaillez à la maison, avec vos enfants, et vous les éduquez. Vous traversez peut-être des moments difficiles, et les fardeaux semblent écrasants. Vous avez parfois l'impression de faire du surplace. Vous devez sans cesse répéter les mêmes gestes, essuyer les nez, nettoyer les fesses. Ça n'arrête jamais. Et pourtant, à y bien réfléchir, vous faites votre part pour l'œuvre. De quelle manière allez-vous dire? Eh bien, simplement parce que vous formez et modelez les esprits de futurs êtres divins. Et si notre mission devait se poursuivre suffisamment longtemps, vous aurez contribué à former des individus qui deviendront des piliers dans l'Église de Dieu. Des individus qui soutiendront à leur tour cette œuvre et lui apporteront leur soutien. Mesdames, si vous êtes à la maison avec de jeunes enfants, votre travail est-il sans effet de levier? Faites-vous partie de l'œuvre? Absolument. Et qu'en est-il de ceux qui sont à la retraite? Vous savez, même si vous êtes au crépuscule de votre vie, que vous vous sentez seul et isolé, que vous éprouvez peut-être quelques difficultés pour vous déplacer, que vous voyez peut-être moins bien, que vous n'entendez peut-être plus aussi bien, bref, que vous ne vous sentez plus utile à grand-chose, alors écoutez-moi, vous pouvez néanmoins consacrer du temps à la prière. Est-ce important, allez-vous dire? Bien sûr. Vous pouvez par exemple prier davantage pour l'œuvre de Dieu, parler chaque jour à notre Père Céleste à propos de ce qu'il fait dans le cadre de la plus importante activité qui s'accomplit présentement ici-bas. N'oubliez jamais, frères et sœurs, que lorsque nous nous impliquons pleinement dans l'œuvre de Dieu, cela donne à notre vie un but, une direction et une force. Cela déplace notre point d'appui. Passons à Néhémie chapitre 4. Quand je me tourne vers Néhémie, j'adore regarder un passage comme celui-ci. Néhémie était un chef des Juifs qui était revenu à Jérusalem pour superviser la reconstruction de ses murailles et pour y rétablir l'ordre. L'histoire nous apprend que la reconstruction de la muraille avait été négligée pendant environ 10 ans. Il a fait en sorte que les gens retrouvent leur élan et se laissent motiver par ce qu'ils projetaient de faire. Néhémie 4, verset 6. « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. » Quelle belle phrase! « Le peuple prit à cœur ce travail. » Et si je ne me trompe pas, je pense qu'ils l'ont achevé en 54 jours environ, alors qu'ils avaient auparavant tergiversé pendant 10 ans. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, que Dieu s'implique et que les gens font preuve de zèle, cela a manifestement un effet de levier. Voyons aussi Néhémie chapitre 6, versets 1 et 2. « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambalat, Tobija, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambalat et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono, Ils avaient médité de me faire du mal. Cela me rappelle l'époque où M. John O'Gwynn donnait des études bibliques alors que je subissais mon entraînement sous sa gouverne. Chaque fois qu'il abordait cette partie des Écritures, la section où il est dit « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono », M. O'Gwynn éprouvait alors un malin plaisir à dire non pas « Ono », mais « Oh non !» C'est que les ennemis de Néhémie voulaient manifestement faire obstruction à la poursuite du projet, comme le soulignait M. O'Gwynn. Verset 3. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. » Néhémie n'était, lui non plus, pas dupe de leurs intentions. Son zèle pour l'œuvre de Dieu était évident et il ne s'en laissait pas détourner. Frères et sœurs, avons-nous un ennemi qui tente de nous distraire dans l'accomplissement de cette grande œuvre de Dieu? Absolument. C'est pourquoi il ne cesse de nous bombarder de milliers, voire de millions de distractions. Et comme M. Wakefield l'a expliqué dans d'autres messages, il ne se préoccupe pas de savoir par quelle distraction nous nous laisserons piéger. Il dira « Choisissez n'importe laquelle, cela m'est égal. Prenez n'importe quoi qui vous éloigne de ce sur quoi Dieu veut que vous vous concentriez. » Mais Dieu nous donne heureusement un levier. Si nous sommes proches de lui, si nous travaillons de concert avec le Saint-Esprit qu'il nous envoie pour nous aider, si nous sommes prêts à être enseignés, si nous sommes prêts à vraiment connaître le Christ et à le laisser vivre en nous, alors nous pouvons avoir un énorme effet de levier dans notre vie. Pour terminer, voyons encore Romains, chapitre 8, verset 11. Romains, chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il s'agit là de l'effet de levier ultime. Il n'est pas seulement question ici de contrôler notre nature humaine, d'améliorer nos relations avec autrui, d'éviter les problèmes et les conflits, d'aplanir notre chemin dans la vie, de jouir de plus de paix, de tranquillité d'esprit et de confiance, particulièrement en ces temps de la fin, ni même de faire partie de l'œuvre à cette époque, alors que nous sommes encore dans la chair. Il faut aussi projeter les regards plus loin, vers cette époque où toute l'humanité aura finalement accès à la vie éternelle. Pas seulement une vie perpétuelle dans la chair, mieux que cela, une vie perpétuelle dans le royaume des esprits, dans l'état glorifié. Réfléchissez un instant. Dans cet état, nous ne nous contenterons plus de déplacer des pierres encastrées dans le sol avec une barre. Non, nous parlons ici de déplacer des planètes et des étoiles. Nous ferons alors partie de la famille de Dieu. Nous serons bien sûr toujours subordonnés à Dieu et au Christ, mais à présent, dans notre état glorifié, nous aurons le pouvoir de faire des choses dont nous ne pouvons même pas rêver à l'heure actuelle. Frères et sœurs, si nous nous mettons au diapason de Dieu, il va déplacer notre point d'appui. Oui, il va le déplacer très loin, et nous aurons une puissance dont nous n'avons pas idée. C'est à ce moment-là que nos performances seront hors normes, et tout ce qui fait actuellement partie de notre vie semblera n'être que des peccadilles. Ce sera comme à l'époque où nous nous amusions dans un carré de sable. Je ne sais pas si les enfants jouent encore dans des carrés de sable, mais c'était le cas jadis. Vous savez, lorsque nous ferons partie du monde des esprits, tout ce qui aura cours ici-bas nous apparaîtra banal. Nous vivrons alors une expérience incroyable. Si nous coopérons avec lui dans ce qu'il accomplit présentement dans nos vies, soyons assurés qu'il va déplacer ce point d'appui pour nous sortir de notre condition actuelle, pour nous faire entrer dans son royaume. Oui, Dieu veut que nous ayons une vie abondante et épanouie, et il veut que nous soyons dans son royaume. Pour lors, il désire que nous nous épanouissions et que nous apprenions à mieux gérer notre vie, que nous lui donnions un sens et un but. En conclusion, le Saint-Esprit de Dieu et de Christ est le véhicule par lequel nous pouvons faire bouger notre point d'appui et ainsi parvenir au but ultime qui nous est réservé.